On te reçoit ce soir. Alors, tu es déjà venue parce que tu avais écrit un livre en particulier sur Tsipras. Et tu es venue aussi pour nous parler de la crise de la dette en Grèce. Et en fait, depuis quelques semaines, on voit que ça bouge beaucoup. Il y a en particulier une grève générale qui est annoncée demain. Et tout ça est parti d'un accident de train. Alors, est-ce que tu pourrais revenir avec nous l'origine de cette colère et de cet accident?
Alors en fait, tout commence, comme tu l'as dit, par un accident de train, une catastrophe ferroviaire, qui est la première grosse catastrophe ferroviaire du pays en réalité. Un train partait d'Athènes pour se rendre à Thessalonique, donc de la plus grande ville du pays, la capitale du pays, vers la deuxième plus grande ville du pays, traversant un certain nombre de villes. Et dans ce train, il y avait beaucoup d'étudiants, puisque c'était un lendemain de week-end qui ouvre les fêtes de Pâques. Hein. On se rappelle qu'on est dans un pays orthodoxe où Pâques, c'est un peu le Noël à la grecque, sans vouloir faire d'allusion à quelconque série qui pourrait sortir bientôt ou de titres de films. C'est donc le Noël à la grecque, en quelque sorte, la fête familiale par excellence. Tout le monde se retrouve. Et on va dire que l'ouverture de ces cérémonies de Pâques, c'est un peu les carnavals. Les étudiants ont l'habitude d'aller dans les carnavals, de retrouver leur famille, etc. etc. Bref, un mardi soir, le mardi 28 février, le train part d'Athènes et quelques heures après, dans la ville de Larissa, peu après la ville de Larissa, une collision se passe entre deux trains. Un train de voyageurs parti d'Athènes et un train de fret parti du nord du pays. Et immédiatement, moi je n'étais pas sur place, mais me confient des amis qui étaient sur place. Tout le monde comprend que c'est une catastrophe. Parce que, en fait, non seulement il y a le train qui déraille, et en même temps, les deux premiers wagons, les deux, trois premiers wagons qui prennent feu, locomotive plus deux wagons qui prennent feu. Et il se trouve que, pour de multiples raisons, on pourra en parler après, ce train prend feu et il y a beaucoup d'étudiants à bord, notamment dans les premiers wagons qui sont dont le wagon bar, donc les wagons où l'on entre un peu parfois à la dernière minute quand on n'a pas de place, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'en réalité, très vite, les Grecs comprennent que non seulement la jeunesse est touchée, mais qu'en plus, cet accident révèle les catastrophes économiques du pays depuis des années, dont l'une s'appelle les politiques d'austérité. Et j'ai un petit trou de mémoire sur mes dates, j'ai pas assez bien révisé, mais je crois que le mercredi 1er février au soir a lieu immédiatement et spontanément la première manifestation avec les jeunes à la tête de ce mouvement. Et je pense que c'est aussi un élément très très important de comprendre, donc comme je disais, d'une part que c'est les jeunes qui sont les premières et principales victimes. Il faut comprendre qu'il y a 57 morts. En réalité, il y en a même peut-être encore plus pour deux raisons. La première, c'est qu'on a identifié 55 ADN. Il y a 57 ADN revendiqués. Et il y a deux ADN dans les 55 qui sont identifiés, mais pas revendiqués, demandés par les familles. Donc il y a au minimum 59 morts. Et en plus, il y a des gens entre la vie et la mort encore à l'hôpital.
Et on s'en souvient, en fait, très rapidement, les compagnies ferroviaires ont voulu faire porter la faute au conducteur de train, qui lui-même a dit « Oui, c'est vrai, c'est un manque de vigilance où je n'en pouvais plus ». Je crois qu'il a lui-même dit que ça faisait 4 jours non-stop, ou bon, peut-être que j'affabule, mais en tout cas, ça faisait très longtemps qu'il conduisait des trains sans repos.
Alors, en fait, plus que le conducteur, c'est le chef de gare qui est incriminé. Et c'est la stratégie qu'a utilisée notamment le gouvernement, et peut-être même plus particulièrement le gouvernement. Là, il faut faire un flashback un petit peu long et remonter dans un premier temps à juillet 2019. Le gouvernement actuellement en place est mené par le leader, le chef de file de Nouvelle Démocratie, un parti de la droite conservatrice, chef de file d'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est important de l'avoir en tête, qui pour arriver à la tête de Nouvelle Démocratie a fait alliance avec l'extrême droite grecque qui s'était fondue dans Nouvelle Démocratie. Une extrême droite qui a, évidemment, comme toute extrême droite, un propos extrêmement... qui repose sur le racisme, l'antisémitisme, le nationalisme, mais qui est aussi, sur le plan économique, en réalité, un parti très libéral. Donc, pour arriver à la tête de Nouvelle Démocratie, Kyriakos Mitsotakis a fait alliance, lors des élections au sein de son parti en 2016, avec cette frange d'extrême droite grecque. Et lui, il est arrivé, Mitsotakis, avec un programme qui était la libéralisation, continuer les politiques d'austérité, en réalité, et de privatisation. Des politiques qui remontent, c'est là où il y a un deuxième flashback, en fait, à 2010. 2008, vous vous rappelez tous de la crise dans le monde. 2010, cette crise arrive en Grèce.
C'est là où on renvoie nos auditeurs, auditrices à l'émission qu'on avait faite avec toi sur ton livre sur Tsipras, parce qu'en fait, on voit dans ce livre, qui est une forme de biographie politique d'Alexis Tsipras, qui était le chef de Syriza, donc la gauche, l'équivalent de la gauche radicale grecque. Et on voit l'ascension, l'arrivée au pouvoir et les contraintes tout de suite qui arrivent et l'impossibilité... de gouverner qui arrive justement dans ces années-là, 2008, 2010, 2011, la crise des dettes européennes et notamment l'énorme crise de la dette grecque avec ce fameux propos qui a fait un film, laisser les adultes parler entre eux à destination du ministre des Finances en Grèce.
Exactement. Et en fait, c'est... Alors merci déjà de rappeler mon bouquin, mais la chose est que donc en 2010, comme tu l'as rappelé, la crise arrive en Grèce, a un impact particulier, les banques françaises, allemandes se désengagent du pays, bref, la crise déstabilise évidemment la Grèce et l'Europe, et la réponse apportée par la Troïka, qui est l'alliance entre l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, la réponse apportée par cette Troïka est de dire nous allons, pour éviter la faillite du pays, vous apporter des prêts contre des politiques d'austérité qui reposent sur baisse des dépenses publiques, baisse des salaires, casse des conventions collectives, baisse des retraites, augmentation des taxes et, évidemment... privatisation. Ça, c'est un peu un impondérable. Et là, il y a peut-être quand même quelque chose de très important à noter. Je parlais il y a quelques jours avec un chercheur qui s'appelle Hervé Charpin. Je vérifierai pendant une pause dans mon téléphone son nom exact, j'espère ne pas l'écorcher, et qui est un spécialiste du ferroviaire, qui a fait sa thèse sur le ferroviaire et qui me disait il faut bien comprendre quelque chose. C'est que ce que demande Bruxelles, ce n'est pas à proprement parler la privatisation en Europe. C'est la scission des activités, la séparation des différentes branches d'activité, le rail, etc. En revanche, ce qu'a demandé la Troïka à la Grèce, c'est la privatisation des compagnies. Donc en fait, le terrain était préparé en amont et ensuite on a privatisé évidemment les activités rentables.
C'est-à-dire les compagnies de train sont privatisées, mais les rails restent pour l'État grec, c'est ça ?
Voilà.
Mais c'est la même chose en France, hein ? C'est exactement le même plan qui nous attend.
Sauf que dans différents pays, ce sont des gouvernements qui prennent la décision tout seuls de le faire. Là, c'est réellement une demande
de l'extérieur.
De l'extérieur, à laquelle... les gouvernements ont souscrit. Le premier gouvernement qui a souscrit est un gouvernement dans lequel, je vous le donne dans le mille, l'actuel Premier ministre était ministre de la réforme de l'État, demandait la suppression de 15 000 ou 20 000 postes, 15 000 postes de fonctionnaires, et en même temps expliquait qu'il fallait privatiser. Donc Kyriakos Mitsotakis, c'était à l'époque ministre de la réforme de l'État, expliquait qu'il fallait privatiser sous le gouvernement de M. Samaras, Antonis Samaras. Bref, je reviens comme ça à cette situation qui a mené à l'accident, à ce contexte qui a mené à l'accident. Privatisation, libéralisation, c'est une compagnie italienne qui rachète en 2017 l'exploitation du rail, tout ce qui est transport en fait, hein, fret. Mais des millions ont été versés à la Grèce pour assurer la sécurité, pour moderniser le rail. Et là, il y a une enquête qui est en cours, mais un certain nombre de journaux, notamment le journal des rédacteurs, Ephemérides Athens Syndacton en grec, ou le journal, pour le coup, un journal plutôt de la droite populiste qui s'appelle Democratia, ont montré que des millions sont arrivés, mais que l'investissement dans le rail et dans la sécurité ne correspond pas aux millions arrivés. Et d'ailleurs, les syndicalistes du rail expliquaient depuis des années, depuis au minimum 2 ans, que des plans avaient été mis en place pour assurer la sécurité du rail par le gouvernement précédent, celui Mitsotakis, donc par le gouvernement mené par Alexis Tsipras, un mec de la gauche, issu de la gauche, on va dire, issu de la gauche radicale, mais qu'il a mis ce plan, mais que la première chose qu'a fait Mitsotakis et son gouvernement en arrivant, c'est de mettre un terme au plan mis et de changer les accords passés. Donc les syndicalistes menaient une bataille pour dire « Attention, nous allons droit à la catastrophe ». J'étais à Athènes il y a quelques jours et j'ai rencontré 2 syndicalistes de 2 courants différents qui m'ont dit exactement la même chose. Il y avait déjà eu des accidents. Nous avons alerté. Il y a 3 vraies lignes dans le pays de train. C'est pas énorme pour un pays de 10,8 millions d'habitants. 3 vraies lignes. Il y a eu des accidents. Nous avons alerté. La compagnie nous a dit « Nous, circuler, il n'y a rien à voir. » Pire, quelques jours avant la catastrophe, le ministre des Transports, Kostas Karamanlis, issu d'une de ces grandes familles grecques qui règnent sur le pays depuis des décennies, ce ministre avait répondu à une question d'actualité. Vous dites qu'il y a des problèmes de sécurité sur le rail, vous faites vous nuisez à l'image de la Grèce. Vous, opposition de gauche, vous cherchez à nuire à notre gouvernement et à l'image de la Grèce. Il a démissionné. Les fusibles, c'est peut-être important, politiquement, symboliquement, mais il y a d'abord des morts.
Et pour revenir aux conditions de travail, parce qu'on était parti de là, de ce chef de gare qui avait admis la faute humaine, alors je ne sais plus comment on dit,
l'erreur humaine.
Voilà. Il y a ça aussi qui rentre dans la balance.
Cette erreur, de nouveau, là, l'enquête est en cours. En revanche, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que le chef de gare est quelqu'un qui avait travaillé auparavant dans la fonction, dans l'éducation nationale. Je crois qu'il était bibliothécaire. Il portait les livres en fait dans des wagonnettes là, dans des voiturettes. Je sais pas exactement.
Appariteur.
Magasinier. Magasinier. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'était magasinier. De ce qu'on entend pour l'instant, hein, mais rien n'est encore tout à fait fixé. Et en fait, justement, l'Union européenne qui a exigé avec le FMI et la Banque centrale des suppressions de postes, programme auquel souscrivait le Premier ministre en place, hein, à un moment, il faut quand même, je fais de nouveau une petite parenthèse, mais il faut quand même avoir toujours en tête qu'une mesure est aussi prise par des personnes qui sont élues et ils ont la capacité de prendre la décision ou de ne pas la prendre, de dire oui ou de dire non. Après, il y a des contraintes qui peuvent expliquer pourquoi ils vont dire oui. Mais le rôle est aussi d'exposer les contraintes pour qu'il y ait la prise de conscience et que la prise de conscience n'arrive pas par les morts. Je referme la parenthèse douloureuse, mais donc ce chef de gare était arrivé chef de gare parce qu'il était un peu obligé d'être muté. Il avait fait une formation de 30 ou 40 jours ou de 3 mois. Il y a eu différentes versions.
Toi qui t'es assez courte.
En tout cas assez courte. Et qu'il aurait obtenu ce poste sur une gare clé dans le dispositif grec, puisqu'il y a très peu de lignes et que cette ligne est une des plus fréquentées, par l'aide d'un député de Nouvelle Démocratie. Donc, là, des vieux fantômes ressurgissent. Et c'est ça qui est aussi terrible, puisque, évidemment, aujourd'hui, notre émotion, notre colère de citoyens européens, citoyens du monde, se porte sur les morts. Et c'est normal. Mais il faut voir aussi le dessous, entre guillemets, de l'histoire, le contexte.
Oui, cette catastrophe est vraiment le révélateur des politiques néolibérales. Après, là, tu disais qu'après l'accident, les jeunes, ou en tout cas des étudiants, sont allés en manifestation. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas dit des choses contre le chef de gare et considéré que cette personne était responsable. Mais qu'en était-il des politiques ? Quelle était la réaction des autorités locales ou des autorités ?
Je vais essayer d'être court.
Mais
effectivement, c'est très important de voir que ce discours qui a d'abord été tenu par le gouvernement n'a pas pris dans l'opinion publique et notamment chez les jeunes. Ça, c'est vraiment essentiel. La deuxième chose qui est très, très importante, c'est que, en réalité, aujourd'hui, ce mouvement de la jeunesse renvoie à une contestation de ce qu'on pourrait appeler l'ordre établi, et en tout cas de l'ordre établi imposé à la Grèce. Un exemple. Dans les manifestations, il y avait des slogans du type « leur vie, nos vies, leur profit ». Il y avait des slogans du type ce n'était pas un accident, c'était un crime. Ou encore, ils comptent les profits, nous comptons les vies humaines. Et j'ai une image, en tout cas moi, qui m'a ému quand je l'ai vue. J'étais, comme je disais, à Athènes, devant une gare il y a quelques jours. Une gare de RER, mais c'est les mêmes qui exploitent la compagnie OSE, la compagnie qui est restée publique, qui a la gestion du rail, là pour tout le rail en Grèce. Et les grilles sont fermées puisque les cheminots sont en grève, cheminots et cheminotes sont en grève. Et donc, il y avait une image avec des fleurs devant les grilles fermées, des bouts de papier, et sur une feuille rouge, un dessin sur lequel était dessiné un enfant dans un nuage. On est dans un pays très tenu par la religion orthodoxe, ostensiblement en train de prier, en tout cas c'est l'image que ça dégageait, avec comme seul mot en surtitre « Maman, je suis bien arrivée ». Et en fait, ça c'est un slogan, d'abord un message que toutes les mères envoient à leurs enfants, que les pères aussi envoient parfois à leurs enfants, et que tous les pères peuvent envoyer à leurs enfants. Et c'est un message qui est devenu un slogan, parce qu'une mère a raconté qu'elle a envoyé ce message et que son enfant ne reviendra jamais. Et donc, cette jeunesse, je pense qu'elle est à la fois d'abord émue, en colère contre le gouvernement. Peut-être on reviendra un peu après, mais parce qu'en fait, c'est un catalyseur de colère plus profonde et plus ancienne, de colère cumulée. Et enfin, elle est en rogne parce que, en fait, c'est elle qui est toujours la victime depuis plus d'une décennie maintenant.
Oui, bah justement, peut-être que tu pourrais revenir sur la situation des jeunes, sur leur sort aujourd'hui, parce qu'il y a une grosse crise économique, il y a des situations pour les étudiants qui sont très compliquées, et on sent que cette colère-là face à cet accident, où effectivement c'est des jeunes qui ont été victimes, c'est les jeunes qui sont dans la rue, pas que, mais il y a vraiment un sort spécifique de la jeunesse en Grèce.
Ouais, et je pense qu'il y a un chiffre qui le dit, c'est le taux de chômage aujourd'hui en Grèce des jeunes. Et ensuite, j'en citerai un deuxième. J'essaie de ne pas abuser des chiffres, mais parfois, elles sont importantes. Aujourd'hui, il y a 28,1% des jeunes, on entend par jeunes hein, les 15-25 ans, qui sont au chômage dans un pays qui compte 10,8 millions d'habitants. Et pendant la crise, au summum de la crise, au pic de la crise, en 2013-2014, il y avait un peu plus de 50% des jeunes qui étaient au chômage. Comme toujours, un chiffre, il y a deux façons de le voir au moins. La première, c'est celle de dire que ça a considérablement décru, La deuxième, c'est de voir dans quelles conditions ce chiffre a décru. Et là, il faut se rappeler que, par exemple, ce qu'on avait appelé les émeutes d'Athènes en 2008, en décembre 2008, c'était une contestation déjà de la jeunesse pour obtenir une augmentation, une amélioration de ses conditions de vie, pour obtenir un salaire minimum qui soit un peu plus important.
Parce que c'est un des pays où, par exemple, les jeunes vivent le plus longtemps chez leurs parents.
Exactement.
Les salaires minimums sont vraiment ridicules.
Le salaire minimum était de 650 euros avant la crise. Il est revenu à un niveau un peu supérieur, mais peu. Et en 2008, les jeunes se battaient pour 750 euros. Que s'est-il passé avec le mémorandum, donc ces accords de prêts dont je parlais tout à l'heure entre la Troïka et la Grèce, hein, donc des prêts contre des mesures à appliquer? La Troïka a dit il faut réduire la masse salariale, il faut réduire... Bon. Donc, le salaire minimum a été diminué, notamment pour les jeunes, plus encore qu'il a été diminué, je reformule, rediminué pour tous et plus encore pour les jeunes. Il y a eu l'introduction d'un SMIC jeune, en fait. Hein. Et il était à 480 euros à peu près.
Sachant que le coût de la vie est relativement élevé en plus.
Le coût de la vie est, entre guillemets, nous paraît accessible avant la phase d'inflation que l'on connaît. Quand on a un salaire de 1500, 1600, 1700 euros, mais quand on a 480 euros, on ne peut pas vivre. On vit chez ses parents, comme tu le disais. Deuxième chiffre très important, c'est que entre 2010 et aujourd'hui, selon les statistiques, entre 450 et 600 000 jeunes ont quitté le pays en quête d'une vie meilleure. Et malheureusement, il faut bien comprendre qu'en plus, ce sont les jeunes les plus formés dans l'ensemble qui partent. C'est-à-dire que c'est une... Comment dire ? C'est évidemment la perte d'une jeunesse dans un pays de surcroît vieillissant, mais en plus la perte d'une jeunesse formée, d'une jeunesse qui a été éduquée avec l'argent public grec et qui va servir de main-d'œuvre, parfois même à meilleur marché, à l'étranger. Si je voudrais juste d'ailleurs, parce que ça c'est une image qui est très importante à mes yeux, il y a quelques entreprises, vous savez, des plateformes d'assistance en ligne en Grèce. J'ai fait une enquête il y a quelques temps, de mémoire c'était en 2020, mais les conditions n'ont pas changé sur l'une d'entre elles. Et cette plateforme rémunère différemment les salariés, selon qu'ils viennent d'Allemagne, de Suède, de Finlande, il n'y en a pas beaucoup, ou de France, mais même de Grèce. Mais les Grecs qui gagnent moins que les Français, qui eux-mêmes gagnent potentiellement moins que les Allemands, vont gagner quand même plus que les Turcs, qui gagneront eux-mêmes plus que les Tunisiens.
Et c'est vraiment le libéralisme à son paroxysme, quoi.
En tout cas, c'est la concurrence pour un travail qui est le même. La différence que l'on essaie d'entrer dans la tête des gens qui sont obligés de travailler là, c'est que en fait, eh bien, ils parlent des langues plus ou moins rares.
Et qu'ils n'ont aucun droit.
Ça, de toute façon. En France, je crois qu'en France, on appelle ça auto-entrepreneur. En Grèce, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Et c'est une catastrophe à différents niveaux. Et c'est aussi en ça, d'ailleurs, que là, on reviendra, je sais, sur la jeunesse, mais que la mobilisation des jeunes aujourd'hui est extrêmement importante.
Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et ce soir, on reçoit le journaliste Fabien Perrier pour parler de la grève de demain en Grèce, grève générale, après un accident terrible de train où 57 morts, des jeunes, des étudiants, sont décédés il y a quelques jours.
Bah oui, juste avant la pause, on parlait de la situation de la jeunesse, du droit du travail, donc qui a l'air totalement inexistant. Des salaires qui sont extrêmement faibles. Les pensions de retraite aussi sont extrêmement faibles. Et évidemment, bon, bah, ça, c'est pas pour la jeunesse, mais bon, c'est aussi, je suppose, un des points qui alimente la colère sociale. Cette colère sociale qui se manifeste là en ce moment, donc elle va prendre quand même la forme d'une grève générale demain. Donc tu as parlé beaucoup de la jeunesse, mais est-ce que cette grève elle est organisée par les syndicats ou est-ce que c'est un mouvement autonome ?
Non, c'est pas un mouvement autonome, mais je pense que dans un article à apparaître demain dans Marianne, je dis que la jeunesse est le fer de lance. Alors comme il n'est pas encore paru, j'espère que l'expression va être retenue. Mais
c'est de l'avant-garde.
C'est ça, c'est une forme d'avant-garde en réalité. C'est-à-dire que la jeunesse a vraiment lancé le mouvement. Et comme je suis à Paris à l'instant, je parlais tout à l'heure avec un ami qui est journaliste, Yannis Androulidakis, qui est par ailleurs le traducteur de mon bouquin en grec. Et je lui disais, mais comment tu vois l'évolution ? Il me dit, écoute, la dynamique est une dynamique des jeunes et les manifestations, quand elles se joignent à un appel à la grève générale, font maintenant le plein comme on ne l'a jamais vu. Je vais donner un exemple. La semaine dernière, à Athènes, il y a eu une manifestation au cours de laquelle, sur un parcours de 2,6 kilomètres, les premiers arrivaient au point de départ quand les derniers en partaient. C'est-à-dire qu'ils ont entouré deux des places centrales d'Athènes, la place Syntagma, point du milieu, et le point de départ et d'arrivée, du coup, la place Omonia, la place de la Concorde, donc pour Omonia, place de la Constitution pour la place Syntagma, en empruntant deux avenues. Et ce cortège était non seulement un cortège très important, un jour où il y avait donc une grève qui n'était même pas une grève générale, c'est-à-dire qu'un certain nombre de syndicats, de fédérations syndicales avaient appelé et de maisons syndicales, hein, les unités de base, on va dire, avaient appelé à manifester. Cependant, la plus principale confédération syndicale n'avait pas appelé à manifester et à faire grève en tant que telle ce jour-là. Demain, c'est une grève générale, à tel point que si demain vous voulez aller à Athènes, j'espère que vous êtes déjà arrivé, il n'y a plus d'avion. Donc, voilà.
Puis même les bateaux, je crois, les marins sont en grève aussi. Vous avez envie de prendre un ferry.
C'est exactement. C'est quelque chose qui est donc très intéressant de voir à quel point il y a la rencontre de nouveau entre un mouvement de jeunes qui n'est pas un mouvement qu'on pourrait qualifier d'autogéré. C'est plutôt un mouvement spontané, mais qui se rallie ensuite à des composantes. Par exemple, depuis quelques semaines, j'avais écrit dans Libé et dans Libération à ce sujet au mois de janvier. Donc depuis quelques semaines, il y a un mouvement des artistes. Alors les artistes, ce sont des saltimbanques, des gens qui embêtent un peu, des gratte-poils, et puis en plus... Évidemment, les artistes, parfois, ils peuvent être poètes, avoir des visions. Bref, qu'est-ce s'est-il passé ? Eh bien, ce gouvernement, a décidé de dégrader le diplôme des artistes. Donc, les artistes se sont mobilisés pour dénoncer cette dégradation de leur diplôme, puisqu'elle a des impacts pour toute fonction dans l'administration, s'ils doivent aller occuper un poste dans un opéra, dans un théâtre, donner des cours dans les écoles municipales, etc. etc. Je ne vais pas faire la liste. Ils se sont mobilisés. Et ils se sont mobilisés et déjà, ils étaient une première expression d'un ras-le-bol des jeunes, parce que ce sont d'abord les jeunes étudiants artistes. Et en fait, l'accident de train, comme je disais tout à l'heure, est un catalyseur. C'est-à-dire que toutes les colères, maintenant, se retrouvent dans le train. On parlait de corruption, on parlait de clientélisme, on parlait de sentiment que de dépossession de son propre pays, de sentiment, on va dire ça comme ça, que les profits valent plus que les vies. Et ce sentiment, il existait, mais il ne trouvait pas nécessairement une expression commune. Cette expression commune, elle est en train d'exister. Et là, je vais faire de nouveau un petit retour un peu historique, mais je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2011 en Grèce, en Espagne, ça a moins pris en France, c'était le mouvement des indignés ou le mouvement du M25 en Espagne, si mes souvenirs sont exacts sur le nom. Eh bien, ça me rappelle ces moments-là où c'était les jeunes qui impulsaient le mouvement, qui étaient les premiers à contester, qui en plus étaient force de proposition, qui étaient les premiers dans les rues, les premiers à occuper des places et finalement les premiers à avoir déstabilisé le gouvernement, avec de nouveau malheureusement un point commun, c'est que la réponse à l'époque a été des manifestations. La réponse du gouvernement a été la répression des manifestations et la répression violente. Et on a vu que dans un premier temps, là, cette fois, les manifestations sont, on pourrait dire, bien déroulées. Mais plus elles prennent, plus la répression est violente.
Et il y a des manifestations dans tout le pays, en Grèce ?
Il y a eu des manifestations dans tout le pays. Il n'y a pas, grosso modo, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une manifestation. J'ai échangé sur des réseaux sociaux avec des jeunes grecs, puisque, comme je disais, à l'instant, je ne suis pas en Grèce, donc j'essaie quand même de conserver les liens et de prendre le pouls de ce qu'ils pensent. Et ils me disaient, mais sur les îles, non. Je parlais avec un jeune grec qui m'expliquait, moi, je suis sur une île, j'étudie sur une île. Quand je pense à ce qui s'est passé, j'ai peur, je suis furieux, je suis mécontent, ce sont des jeunes, c'est nous encore qui payons le prix. De nouveau, j'ai parlé du SMIC jeune. On a parlé de l'exil. On peut aussi parler du chômage des jeunes, on l'a dit. Mais on peut aussi parler, par exemple, de ce qui s'est passé pendant la pandémie. Je sais bien que dans la première phase de la pandémie, en 2020, la Grèce est un pays, entre guillemets, qui s'en est bien sorti par rapport à d'autres pays. À tel point que certains ont voulu croire ou voulu voir dans ce phénomène une revanche de la Grèce ou que la Grèce donnait des leçons au reste de l'Europe. Ce qui n'a aucun sens, ni journalistiquement, parce qu'on ne sait jamais ce qui va devenir demain, et deuxièmement, parce qu'en réalité, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait eu une spécificité en Grèce. Des spécificités en Grèce, un confinement plus précoce, etc., etc., moins de lignes, un pays peut-être moins touristique au mois de février, au mois de mars que d'autres pays comme la France, par exemple. Bon, bref, dans ce contexte-là de la pandémie, les jeunes ont été importants en proportion dans le nombre de morts liées au Covid. Ils ont été aussi régulièrement réprimés et des mesures ont été prises qui consistaient, par exemple, à alimenter les médias proches du gouvernement notamment, comme le révèle ce qu'on a appelé la liste Petsas, qui est une liste de médias qui ont obtenu des financements du gouvernement pendant la pandémie. Mais les jeunes, eux, ils ont le sentiment de ne pas avoir été aidés. D'ailleurs, ils ont manifesté. Et quand ils ont manifesté, ils ont été tabassés, réellement tabassés. Et un autre point qui est important pour comprendre cette colère, comment les éléments montaient peu à peu. Il y a eu une affaire de violence sexuelle, d'agression sexuelle par un directeur de théâtre. On a eu le sentiment que cette affaire était étouffée. Ou alors les artistes, encore pendant la pandémie, ont eu le sentiment de ne pas, n'ont pas été, c'est pas qu'ils ont eu le sentiment, c'est qu'ils n'ont pas été aidés par le gouvernement. Donc toutes ces colères montées dans différents secteurs, sur différentes thématiques, et finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est cet accident qui est le catalyseur, parce que c'est aussi un pays qui a une forme de sacralisation de ses jeunes, et un pays qui n'avait jamais vécu de catastrophe ferroviaire, mais surtout parce qu'à la différence, par exemple, d'un incendie qui peut provoquer des dizaines, voire des centaines de morts, un incendie, à la base, est d'abord une catastrophe naturelle, même s'il y a une étincelle provoquée. Mais c'est une catastrophe naturelle. Là, il n'y a rien de naturel. Tout est la conséquence de mauvaises décisions, de mauvais investissements et d'un déni d'une réalité quand un ministre dit « notre réseau est en bonne santé ».
Et tu disais tout à l'heure que dans les manifestations, on voit des pancartes « nos vies valent plus que leurs profits ». Enfin, c'est l'équivalent en France. Ou « mon fils, est-ce que t'es bien arrivé ?» ou bon, qui ressemble aussi un peu à de l'émotion comme dans les marches blanches. Et je me demandais s'il y avait des revendications politiques, des mots d'ordre clairs derrière ce rassemblement dont tu parles. Anti-gouvernement, par exemple,
ou
je sais pas, anti-européen. Alors,
il y a une première revendication qui est évidente, répétée, c'est « abat le gouvernement ». En fait, le gouvernement a perdu, avec cet accident, le vote d'une part de la jeunesse. Deuxième revendication qui apparaît, c'est finalement arrêtons avec les privatisations. Par exemple, il y a la privatisation du secteur de l'eau qui est en cours aujourd'hui. On sent que je parle bien des manifestants, hein, je ne parle pas pour toute la population grecque, il faudra faire un peu plus tard la différence aussi. Mais les privatisations, c'est un refus qui est clairement établi, exprimé dans toutes les manifestations. La troisième chose qui est importante, c'est que finalement, ça durcit les positions de critique de l'Union européenne, de ceux qui étaient déjà critiques de l'Union européenne, mais ceux qui disent que ce n'est pas complètement la faute à Bruxelles restent sur cette position. Donc c'est plus un durcissement des positions déjà acquises que l'émergence sur ce point d'une nouvelle revendication de ce que j'ai entendu dans les manifestations que moi j'ai vu par ailleurs à Athènes et des rencontres que j'ai pu faire en dehors d'Athènes.
Alors là, en plus, on est dans une période électorale. Il y a des élections incessamment sous peu, c'est ça ?
Comme j'aime bien les flashbacks... 7 juillet 2019, il y a des élections en Grèce. Donc, le gouvernement a 4 ans de mandat. Le gouvernement est arrivé le 9 juillet 2019 à 4 ans pour gouverner. Il doit donc provoquer les élections au plus tard le 2 juillet 2023. La rumeur circulait de façon insistante dans les cercles proches du pouvoir et dans les médias soutien ou proches du pouvoir que le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, avait l'intention d'organiser les élections le 9 avril. Il a besoin de 6 semaines, grosso modo, au préalable pour annoncer les élections. Je reviens à ce que je dis depuis le début de la séance, on est dans un pays très orthodoxe. 9 avril, c'est de surcroît la cérémonie des 40 jours après l'accident, qui est une cérémonie de mémoire, de commémoration extrêmement importante dans le deuil, dans la phase de deuil orthodoxe. Impossible d'organiser des élections. Maintenant, quand va-t-il organiser des élections ? On ne sait pas. Il a plein de possibilités de le faire avec plein de contraintes. Un, les Pâques orthodoxes qui arrivent. Impossible de faire des élections pendant les Pâques orthodoxes. On pourrait les faire ressortir des Pâques orthodoxes. Deuxième possibilité, les faire très tardivement. Par exemple, le 2 juillet. Pourquoi ? Parce que, je reviens à ce qu'il disait, c'est d'abord la jeunesse qu'il s'est mis à dos et d'abord la jeunesse, je parlais de durcissement des positions déjà acquise, c'est d'abord la jeunesse anti-Mitsotakis qui est encore plus Mitsotakis. Encore plus anti-Mitsotakis. Or, au mois de juillet, beaucoup de jeunes, notamment de jeunes de gauche, seront sur les îles en train de travailler ou en vacances, ou sur les îles ou ailleurs, hein, mais ne seront pas dans leur zone de résidence, il n'y a pas de vote par procuration en Grèce, on peut voir facilement la stratégie. Le faire très tardivement, c'est priver son opposant ou ses opposants d'une population électorale qui, si elle ne lui était pas acquise, revient possiblement vers elle.
Et on a parlé un peu de l'implication de l'Union européenne, en tout cas de l'implication de la Troïka. Moi, je me demande si tu as l'impression que ce drame peut diffuser ailleurs en Europe, en tout cas les conséquences de ces politiques néolibérales, les conséquences du fait que on est toujours un peu dans ce chantage en fait à la concurrence, ou en tout cas dans ce prétexte que c'est l'Union européenne, c'est Bruxelles qui nous dit que donc il faut qu'on privatise, il faut qu'on soit dans un marché concurrentiel, etc. Je te pose la question parce que moi j'ai pas l'impression que ce drame grec soit traité vraiment sous un angle politique en France. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il le soit sous un angle politique ? Est-ce qu'il y a une possibilité pour que ça prenne ?
Alors, la première chose, c'est que le 16 avril qui vient, il y aura dans l'émission 27, diffusée sur Arte le dimanche soir, une émission consacrée à la question du transport public et notamment du transport ferroviaire. Paradoxalement, je pense qu'il est un peu tôt aujourd'hui pour que l'émotion se transforme ailleurs en Europe en une véritable prise de conscience. Maintenant, il est évident qu'il faut que cette émotion devienne autre chose qu'une simple émotion et qu'on analyse tous et que l'on comprenne tous en Europe, mais pas simplement, puisque par exemple la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne. Elle reste une île proche de l'Europe, mais ça fait des années que des films sortent par Ken Loach, que des syndicalistes ou des responsables politiques britanniques interpellent sur les conséquences de la privatisation en termes de danger de la circulation des trains, de retard des trains, etc. etc. Donc, évidemment qu'il faut que cet accident en Grèce soit analysé au regard d'autres expériences ailleurs en Europe, que l'enquête soit menée en Grèce, mais que les responsabilités de toutes les compagnies impliquées soient prises. Quels sont les trains qui ont été livrés à la Grèce ? Est-ce que c'était des trains neufs ou pas ? Ça, c'est pas une responsabilité de hausser la compagnie d'exploitation de la compagnie du rail. C'est une responsabilité des compagnies qui exploitent le rail, qui sont sur le rail, qui font circuler des trains. Quels sont ces trains ? Est-ce que on a considéré finalement que la Grèce était bel et bien un pays du tiers Europe auquel on pouvait refourguer un peu ce qu'on voulait ? C'est une question qui doit avoir des réponses, mais qui doit nous faire réfléchir tous en tant qu'Européens, parce que de cette réponse dépend l'avenir de nombre de jeunes qui sont forcés d'utiliser le train tous les jours, toutes les semaines, etc. Il me semble qu'en France, il y a eu aussi un certain nombre de problèmes de sécurité, de trains qui circulait notamment vers Bordeaux avec des systèmes techniques défaillants. Il me semble que c'était vers Bordeaux, je dis de mémoire, mais... comment on en arrive là ? On peut donner d'autres exemples. En Grèce, il y a un système d'hôpitaux publics et un système d'hôpitaux privés. Si on va dans l'hôpital public, si on a la place dans un hôpital public, il faut aller voir ce que ça veut dire. Dans les hôpitaux publics, il y a des infirmières privées que l'on se paye si on veut avoir une infirmière qui s'occupe de soi. Et je viens maintenant sur les hôpitaux privés, c'est-à-dire que dans les hôpitaux privés, selon que l'on est riche ou l'on est pauvre, nous ne serons pas le même nombre de personnes dans les chambres. on peut avoir une chambre individuelle qui coûte plus cher qu'une chambre à deux, qui coûte plus cher qu'une chambre à quatre. Est-ce que ça, c'est un système qui correspond au désir de nous, citoyens? Et en réalité, même si ça paraît très éloigné, il y a un parallèle à faire entre cette catastrophe ferroviaire qui est un indicateur de ce qu'ont produit les politiques européennes menées en Grèce dans un pays qui n'était qu'un laboratoire économique et qui, tristement, est peut-être un laboratoire politique aussi, avec donc ce qui se passe, un parallèle entre cette catastrophe de train et ce qui se passe dans le système de santé et ce qui se passe dans un certain nombre d'autres domaines. Et en Grèce, on l'a vu par exemple avec la santé, parce que les hôpitaux ont réellement été débordés. Vraiment, l'hôpital de Thessalonique, on est obligé de construire à l'extérieur de l'hôpital pour soigner des patients, de construire des tentes.
Quand tu parles de laboratoire politique, tu parles de l'accord entre la droite orthodoxe et l'extrême droite.
Alors, droite orthodoxe, c'est toujours en Grèce.
Mais j'allais dire la droite chrétienne et je me suis souvenu que c'était pas ça. C'est une espèce de droite des valeurs.
On va dire droite conservatrice. Je parle effectivement.
Juste pour qu'on ait des sueurs froides dans le studio.
Non, mais
on a déjà pas mal, hein, j'avoue que.
Je vais répondre, mais je vais aussi citer un exemple. Je vais commencer par la réponse. Oui, je parle de cette alliance qui a eu lieu au moment où, pour arriver à la tête de son parti, l'actuel Premier ministre a fait un choix délibéré qui est de s'allier à des membres d'un ancien petit parti qui s'appelait le Laos, qui avait été dissous, on peut dire, par la crise grecque et par le fait qu'il avait été dans un gouvernement contraint de signer un de ses mémorandums. Il explose en vol et les cadres rejoignent, avec leurs propos antisémites, leurs propos racistes, etc., rejoignent la Nouvelle Démocratie. On va dire qu'ils formaient une petite composante de Nouvelle Démocratie. Mais une petite composante peut devenir faiseur de roi. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, dans un papier que j'ai fait pour Libération au mois de septembre, si mes souvenirs sont bons, sorti le 11 septembre 2022, sur l'état profond en Grèce, j'explique qu'une des vice-présidentes de la Cour de cassation grecque tenait sur son blog des propos antisémite, soutenait indirectement ou soutiendrait, je devrais le dire comme ça, des proches des néo-nazis. Et elle est devenue, elle a été nommée par ce gouvernement vice-présidente de la Cour de cassation. Parce que quand on a besoin de quelqu'un pour se faire élire, en général, après, on lui doit quelques retours d'ascenseur. Quand on a besoin, pour faire passer une réforme, qu'elle soit une réforme du système ferroviaire, une réforme des retraites, quoi que vous voyez, d'un parti autre que celui de sa propre majorité, en général, on est obligé de donner à l'autre parti des gages. Et quand on s'allie à la droite ou à l'extrême droite, on donne des gages de droite ou d'extrême droite. Donc, ça, c'est la réponse sur, effectivement, le parti qui a été obligé de s'allier. Mais maintenant, je vais poser une question. En janvier 2022, Valérie Pécresse vient en Grèce. Vous vous demandez pourquoi je vous parle de Valérie Pécresse. Elle vient avec quelques amis, Michel Barnier par exemple, Éric Ciotti par exemple.
Que de bons amis.
Nadine Morano par exemple. Et Valérie Pécresse explique sur la question migratoire que la Grèce est un modèle. Et quand on lui pose la question, est-ce que d'un point de vue du gouvernement, c'est aussi un modèle, l'alliance avec l'extrême droite, elle fait tout pour ne pas répondre. Mais dans ses amis, évidemment, il ne s'agit pas de Michel Barnier, parce qu'on ne peut pas accuser cet homme de proximité avec l'extrême droite. Enfin, en tout cas, je ne crois pas, loin de là. Mais dans les carterons, dans son carteron et dans ses chefs et chefs...
Je pense qu'on peut y aller. Hein.
qu'ils l'ont, certains disaient qu'évidemment, au bout d'un moment, il fallait aussi regarder comment on faisait pour la conquête du pouvoir. Et je voyais, par exemple, il y avait un journaliste, une équipe de Valeurs Actuelles qui était présente. Je regardais avec qui cette équipe parlait, j'entendais un peu ce qui se disait. Et en fait, oui, la Grèce est peut-être un laboratoire politique et peut-être, je vais le passer à sans doute, et je dirais même à mes yeux fort probablement, un laboratoire politique. Mais le pire, c'est que dans ce même gouvernement actuel, il y a un parti, des membres d'un parti qui s'appelle le PASOK, qui s'appelait le PASOK, qui vient de la social-démocratie. Et j'ai un ami dont je parlais tout à l'heure qui dit toujours, il faut toujours se méfier d'un patron de gauche et d'un ouvrier de droite. Je pense qu'il faut toujours se méfier de quelqu'un qui vient de la gauche et qui est prêt à toutes les compromissions pour aller gouverner avec la droite, même si on se dit de centre-droit ou si on écrit des bouquins sur la réforme, la révolution, tout ce que vous voulez, mais que le programme est clairement un programme de droite.
En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Je mettrai sur le site internet toutes tes références parce que tu as écrit énormément d'articles. Et puis, on t'avait déjà reçu à l'occasion de la sortie de ce livre sur Tsipras qui sort maintenant dans de nouvelles éditions. C'est les éditions...
Et il reste chez le même éditeur, mais l'éditeur a changé de nom. Donc, ça s'appelait François Bourin. C'est devenu Les Pérégrines avec plein de bouquins d'ailleurs très féministes aussi. Des bouquins très, très intéressants. Donc, édition Les Pérégrines et le bouquin, le mien, s'appelait Alexis Tsipras, une histoire grecque. Et on a aussi sorti un Boris Johnson, un Européen contrarié.
En tout cas, c'est hyper intéressant sur l'Europe, les politiques publiques européennes et sur ce qu'elles font et ce qu'elles font au peuple et à la jeunesse. Spectre.